Apéro spécial joueur décevant cette saison.
Un mois et quelques, un peu plus d'un mois, hein, un mois et demi presque d'ailleurs, de compétition. Et puis bah évidemment, comme d'hab, il y a des gens en lesquels nous avions des attentes et qui... Alors, la saison n'est pas finie, mais qui ne sont pas partis pour répondre aux attentes. Mmh. Donc ça peut être de la déception, ça peut être de la déception couplée à de l'inquiétude.
Eh oui.
Bah oui.
Eh oui, on s'installe tranquillou en espérant que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais ce serait pas l'odeur du sang, hein? Et si on allait pointer du doigt ceux qui démarrent mal leur saison? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est un apéro classique. L'année dernière, on avait fait un top 10 des joueurs surcotés. Cette saison en NBA, on avait cassé la gueule de Tyrese Haliburton en plein automne avant que le mec fasse « Nice trash talk, do you know Game 7 of Final NBA ?» Donc, comme le dit Alex, attention, on ne joue que depuis une vingtaine de matchs, ça va être long. Mais c'est bien aussi de faire un petit point au bout d'une vingtaine de matchs par franchise NBA. Il y a des gens sur qui on avait des attentes. Il y en a qui sont un peu à côté de la plaque. Il y en a, on les regarde et on dit « Mais qu'est-ce que tu fais, frérot ?» Et donc, vous, on a hâte d'avoir vos avis, évidemment. On espère que vous allez bien en ce mois de Noël qui démarre. Et donc, on va pouvoir se régaler. Concept très simple, hein, vraiment, comme l'a dit Alex. On va revenir un peu sur ces joueurs.
On en a trois chacun.
Des attentes, ouais, bien sûr. Trois chacun. On fait un petit ping-pong et on essaie de aussi avoir vos avis, c'est-à-dire « Ah, là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord quand même. Est-ce qu'on a nos attentes un peu trop élevées? Est-ce qu'on est emporté aussi par ce qui se passe
en NBA ?»
Qu'est-ce
qui justifie le fait qu'on soit déçu? Est-ce que c'est la production statistique? Est-ce que c'est l'attitude du type? Est-ce que c'est son rôle qui est pas assumé? Enfin, je veux dire, moi, en tout cas, dans mes trois déceptions, j'ai un gars, quand il est là, bon, la production, on peut considérer qu'elle est correcte, mais en fait, je suis déçu sur d'autres choses, mais j'expliquerai.
Il l'expliquera évidemment avec expertise et objectivité, comme d'habitude avec Alex Senator. Léon, c'est là évidemment aussi pour tout bien gérer. Et je termine en vous rappelant deux choses. La première, c'est qu'on a fait un top 10 des joueurs avec le plus de pression cette saison. Et il y a peut-être certains qui avaient été mentionnés.
Il y en a peut-être, je ne sais plus, je m'en... mais oui, peut-être. Oui.
Tu peux regarder ce que je regarde. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que. Boum, bada bam! Et Alex aussi, dans le premier lien, dans le premier commentaire, pardon, en lien épinglé, vous pouvez retrouver le drop du shop Trash Talk. Vous êtes déjà des centaines de milliers à avoir cœur pris du matos sur le shop Trash Talk. C'est le drop de Noël qui tombe. Ici, je porte le Step Back Santa. 3 de Santa. Et Alex, il est en Howdy Partner.
Voilà. Je le trouve très beau, ce petit extraterrestre avec un chapeau de cow-boy, là.
C'est ça.
Et un ballon de basket.
Alex le remplit extrêmement bien, ce pull.
Exactement.
Tout ça, c'est...
Et donc, c'est disponible en ligne sur notre shop. C'est quoi? C'est shop3shtalk.co?
Non. Vous avez le... Vous avez le...
Je sais même pas l'adresse du shop.
Alex ne sait pas,
mais... Trash Talk Shop.
Ce qui est sûr, c'est qu'en premier commentaire, vous avez le lien épinglé. Donc, allez-y, foncez et... On vous le rappelle aussi que dans une dizaine de jours, on a très très hâte de vous retrouver au pop-up, évidemment, de l'incroyable pop-up store. On se retrouvera en plein centre de Paris. Toutes les infos, pareil, sont à retrouver sur Trash Talk. On va se régaler.
Voilà, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir venir toucher avant d'acheter. Et qu'en plus, il y aura tout un tas d'autres petits produits de Noël qui vous seront proposés. Il y aura même quelques exclus pop-up.
Oui,
voilà. Voilà, voilà.
Et tu peux demander peut-être aussi à Alex de donner une bonne take bien grasse avant de repartir avec
ton mug. Ça sera des exclus pop-up.
Ça sera les exclus.
Les exclus pop-up, évidemment.
C'est ça.
Les techs bien sentis, voilà. Le petit café, tout ça. Mais oui,
toujours.
Toucher les produits, sélection de livres élargis, un peu de cartes, enfin plein de trucs cool. Le
tout
pop-up, ça va être encore un moment sympa.
Toutes les infos sont à retrouver en premier commentaire épinglé. On vous fait des cœur et des bisous, évidemment. On va pouvoir démarrer. Parce que là, on va pas se mentir, les copains et copines. Installez-vous confortable. Là, on va sortir vraiment. Quand je dis que ça sent le sang, c'est que c'est un apéro où on dit on n'est pas content, fâché, tout rouge. Alex, je te lance sur le dance floor tout de suite. J'ai envie que tu me parles d'un joueur. Quel est un des joueurs qui te déçoit le plus sur ce début de saison?
Zion Williamson. Je commence par lui. Plusieurs problèmes. Le premier, c'est que quand tu parles de Zion Williamson, tu commences souvent par dire « Ouais, mais quand il est là, la prod est au rendez-vous, quoi. » Le problème, c'est le début de la phrase, c'est le « quand il est là ». C'est-à-dire que dans une équipe un peu en galère, les Pélicans... Comment ?
Oui, vas-y, ça va continuer.
C'est un classique.
Ah, oui.
Dans une équipe un peu en galère, quand même, les Pélicans, je rappelle, au moment où on fait cette vidéo, ils sont derniers à l'Ouest. Hein. Leur bilan...
Et ça va mieux. et ça va un peu mieux.
Ça va mieux. Ils sont une victoire sur les 10 derniers matchs.
C'est bien.
Ils sont derniers, c'est-à-dire que Les horribles Clippers font quand même mieux que les Pélicans.
J'y viens.
Les Kings sont devant les Pélicans.
Peut-être qu'on viendra.
Les Mavs vont s'envoler et le Utah, on n'en parle pas parce qu'ils font du basketball. Mais, ouais, non, Zion, vraiment, oh là là. Déjà qu'il y avait vraiment des trucs qui commençaient à m'énerver, c'est clair que là, moi je trouve qu'on atteint des summums. C'est-à-dire que, déjà, le mec n'a joué que, quoi, 10 matchs depuis le début de saison, bouge pas Zion.
C'est un classique.
10 matchs depuis le début de saison.
10 sur 20.
10 sur, ouais, plus que 20 même, hein, je pense. Ouais, hein, parce que, ils sont en 3-18, ça fait 21, ça chez moi. Mais oui, 10 matchs sur 20.
À tes souhaits.
Ensuite. On va me dire, oui, mais quand il est là, t'as tes 22 points, t'as tes 5 cirebons. Déjà, 5 cirebons, pardon. Genre, moi, devant l'écran, j'ai eu la chance. Est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas, mais j'ai vu jouer les Pélicans parce que, franchement, Jeremiah Fierce, j'aime bien leur rookie. Puis, alors, Derrick Queen, moi, je pense qu'il y a un délire vraiment sympa à regarder.
Zion ne fait pas du tout partie des raisons de regarder les Pélicans sur début de saison.
Mais, pardon, mais c'est quoi cette phrase? Genre, c'est pas normal. Et vraiment. Il y a un truc qui me gave, c'est que clairement, je pense qu'il y a quelque chose de borné, de têtu, de genre c'est moi, je suis comme ça, et puis c'est comme ça, démerdez-vous avec, de Zion, et j'aime pas du tout ça. Il a fait pas évoluer son jeu, alors qu'autour de lui, ça a évolué. Et du coup, je pense qu'il est une des raisons, si ce n'est la raison principale, du début de saison de merde des Pélicans. Et ouais, Willie Green, tout ça, ok, mais en fait, genre, Derrick Queen... Moi, je pense que je l'aime tout autant à côté d'un Yves Missy en mode pivot, rim runner, et Derrick Queen, lui, tu lui files les ballons. Derrick Queen, il fait les efforts, et Trey Murphy font les efforts pour cohabiter tous les deux dans l'aile, puisque Trey Murphy, on va dire, c'est un 3, et Derrick Queen, c'est un 4-5, mais qui aime bien la balle, qui aime bien se comporter un peu comme un ailier, c'est peut-être un grand mot et tout, ce que normalement est Zion. Et du coup, quand ils sont tous les trois sur le terrain, parce que ça a été pas mal en 5 majeurs, il y a eu quand même du Trey Murphy... Zion Williamson, Derrick Queen. Bon, objectivement, quand tu regardes ce front de courte là jouer, une des raisons qui fait que parfois t'as cette sensation de pas de fluidité, c'est Zion. Voilà. Et ça me gave. Ça me gave à fond. En plus, pardon, mais genre impact défensif, bof. Mais vraiment bof. Ils montrent pas l'exemple. Vraiment, donc voilà, je suis saoulé. Ouais, c'est vrai que quand il perd main gauche, il score, il a une grosse efficacité, mais ça fait pas une carrière NBA, ça. Désolé, mon pote. Non. Là, vraiment, je suis archi saoulé par Zion. Son début de saison, je...
Avions-nous des attentes?
Un peu trop, certainement, pour ma part. Peut-être un peu trop. C'est quand même un joueur qui, à la base, me fait kiffer. C'est quand même un délire. Il y a certaines actions où je suis là, genre, putain, quand même.
Wow, ah, mais qu'à début de la saison, un des premiers matchs face aux Spurs, la première possession, appel de pied sur la tête de Wemby. Hein. Enfin, j'en dire, on était hype. Hein.
Oui, l'athlète, il a fait attention.
Il y avait des actions
tout,
où on se disait, genre, tiens, peut-être que Zion va nous faire une grosse saison.
Mais tu vois, dans les derniers matchs, là, l'un de ses meilleurs matchs de récemment, c'est contre les Bulls. Les Bulls qui, franchement, s'ils continuent comme ça, on va être obligé de faire un apéro pour tenter le curse. Ça va être chaud.
Bah, déjà,
on va tenter le curse pour les remettre, quoi, tu vois. Mais. L'un des bons matchs récents de Zion, entre guillemets d'un point de vue statistique, contre les Bulls. Des Bulls où il n'y avait pas grand-chose en face de lui. Où c'était, entre guillemets, facile. Dès qu'il y a de l'adversité, des Warriors un peu intelligents, qui sait aussi qui les a fumés, bouge pas. Putain, contre Memphis, putain. Ils ont besoin de lui contre Memphis pour gagner, là, en overtime et tout ça, là, machin, là. Il n'a pas été bon contre Memphis. Ensuite, juste avant, je crois qu'il y avait Denver. Bon, Denver, on peut encore excuser, mais Dallas... Enfin, en gros, quand il y a du défi, quand il y a des forwards, des pivots, des mecs un peu costauds en face, ouais, Zion, il a postérisé Wemby, mais concrètement, dans la durée, dans la régularité, il fait quoi pour aider les Pélicans où il y a beaucoup de jeunes joueurs et tout? Pas grand-chose. Et... Ah non, vraiment, je suis pas fan du tout. En plus, je trouve qu'il y a des ballons qu'il devrait lâcher, qu'il ne lâche pas. Avant, il les lâchait. Là, tu sens qu'il essaye de prouver parfois. Bah, ouais, déçu. Déçu, ça va pas du tout. Moi, je souhaiterais vraiment que Joe Dumars et son front office commencent à passer des coups de fil et trade Zion.
On On en a parlé tout début de saison sur cette chaîne.
Là, vraiment, ça y est, j'en suis là. Herb Jones, Trey Murphy, Derrick Queen, Yves Missy, let's go.
Mais de toute façon, let's go. Tout à fait, on va en parler dans une autre franchise, mais
Jeremiah Fier, tu l'as ton 5 majeur.
C'est jamais bon signe quand un rookie ne met que 15 matchs à faire dire à toute ta fanbase
Trop bien.
On va changer de projet. Quand ça prend que 15 matchs, tu dis genre bon, ok, en effet, c'est compliqué.
J'ai vu certaines rumeurs où ils disaient ouais, Trey Murphy, super valeur sur le marché. Oui, sûrement. Mais c'est parce qu'il faut le garder en fait.
Il faut. Mais de toute façon, tout l'été, il était dans les désirs et fantasmes.
Ah bah ça, oui, parce que c'est un des meilleurs ailiers actuels. Enfin, il fait partie des meilleurs.
Et on a dit, il fait partie des meilleurs contrats même de la NBA actuelle.
En plus,
c'est compliqué.
Et puis, il sait faire beaucoup. Puis, il progresse, il est jeune. Puis, il se donne. Puis, il essaie de jouer pour le système. Vraiment, j'ai un.
En fait, le problème, c'est que là, c'est si tu veux te séparer de Zion. On avait espéré, on avait émis l'hypothèse qu'un bon début de saison, couplé à des joueurs qui sortent du lot, pouvait peut-être permettre de vendre la salade. Zion Williamson a d'autres franchises. Moi, là, aujourd'hui, des équipes qui vont se positionner sur Zion...
Là, si les GM regardent les matchs, je pense qu'effectivement, parce que la ligne de stats peut encore être considérée comme honnête, encore que moi, je trouve que le trou au rebond, statistiquement au rebond, pour un athlète pareil, avec un corps pareil, genre, c'est une feignasse, quoi.
Je sais que ça va peut-être être blasphème à entendre pour certains, mais vous savez que j'aime bien.
Attention.
Ouais. Mais parce que j'ai parlé avec certains poteaux des Pélicans, parce que je suis sadomasochiste, donc je me suis batté beaucoup de matchs des Pélicans sur la saison. Je pense pouvoir compter les moments où j'ai plus apprécié regarder Karlo Matkovic que Zion sur le parquet.
C'est chaud. Sans faire offense à Karlo Matkovic.
Justement, non mais justement, il y a Karlo Matkovic, il y a de l'effort, il y a eu des trucs bien. Enfin, voilà. Et Zion, c'est.
Non mais je veux dire,
t'es pas censé être sur ces courbes-là.
Les Raptors avec Mamouk et Lajvili, t'as l'impression qu'ils ont un gaucher qui impacte plus le jeu que Zion. Putain, c'est pas normal. Moi, je suis saoulé, je suis déçu. Voilà, Zion.
Moi, je vais taper dans un joueur qui va créer le débat, mais j'ai besoin de l'avoir parce que quand je le regarde sur le parquet. C'est certainement les attentes, je suis un peu déçu. Evan Mobley.
Alors, ça dépend des matchs.
Alors,
je vois ce que tu veux dire.
Evan Mobley.
C'est ça.
Défenseur extraordinaire, il n'y a pas de problème. Défenseur de l'année en titre, il n'y a aucun souci. On sait qu'il peut apporter ça. Les responsabilités offensives, elles sont accrues. On lui a demandé davantage. Il y a des blessés aux Cavs. Il y a plein de choses qu'on peut expliquer. Parfois, tu n'as pas Darius Garland. Parfois, il y a des absences. Là, c'est récemment, c'était Jarrett Allen. D'autres fois, c'était d'autres garçons. C'est un début de saison qui est compliqué à Cleveland, compte tenu des attentes et de la saison précédente, qui était une saison historique de la part des Cavs. On n'est pas en train de dire que... Moi, je ne suis pas en train de vous dire que Evan Mobley fait un début de saison à 10 points de moyenne, à 30% en tir. Pas du tout. C'est quand on regarde les matchs, moi, je trouve que certainement à cause de mes propres attentes. J'ai très hâte de lui laisser le reste de la saison parce que je pense que ça va monter crescendo et j'espère pour lui. Mais sur les 20 premiers matchs, je trouve qu'il y a trop de matchs où parfois je ne sais même pas qu'il est sur le terrain offensivement. Il y a des cartons entiers où je me dis, mais en fait, c'est lui ou mieux vaut faire jouer d'autres garçons. Il peut se faire bouffer offensivement par certaines match-ups parce qu'il ne va pas être assez agressif. Et en fait, j'ai probablement mis trop d'espoir sur le fait que Evan Mobley pouvait passer une forme de cap offensif. Et sur ce point de vue, je suis déçu. Je peux citer déjà des joueurs qui, pour moi, offensivement, ont fait plus de progrès ces derniers mois que Evan Mobley. Et j'étais pas prêt à cette phrase. Sur les 20 premiers matchs de la saison, qui montre un jeu plus déployé offensivement entre Jalen Duren et Evan Mobley, cette phrase ne doit pas exister.
Bah, elle existe pourtant.
Et elle existe.
Après, elle existe parce que Jalen Duren, il rigole pas du tout non plus.
Il rigole pas du tout, on est d'accord. Est-ce que aujourd'hui, je suis plus séduit par le jeu offensif de Evan Mobley, ou en tout cas au scoring, parce que playmaking, il essaye parfois, mais que Evan Mobley ou de Chet Holmgren, qui fait des leaps, on le voit aussi sur le début de saison, ça me fait chier. Et donc, le défenseur est toujours là, mais les Cavs ont besoin de plus. Les Cavs ont besoin de plus de la part d'Evan Mobley. Il y a beaucoup de matchs où je regarde. Je pense que honnêtement, les Cavs, c'était l'équipe que j'ai le plus regardé sur le début de saison parce qu'on avait des attentes et
mais
tout.
Mais alors, du coup, parce que y a quand même, quand tu vois jouer les Cavs, il y a quand même pas mal de fois aussi où, entre guillemets, c'est pas pour le défendre, mais si, je vais le défendre un peu quand même, Evan Mobley, un peu, dans le sens où il y a des systèmes où tu vois, alors après, est-ce que c'est des demandes du coach ou c'est, est-ce que c'est Evan Mobley qui est trop timide, j'en sais rien, mais il utilisait trop en spot-up shooter, sur trop de phases de jeu. Alors, ok, il a progressé à 3 points et il devient de plus en plus capable d'en mettre, mais trop utilisé en spot-up shooter. Moi, j'aime bien quand il est servi à 45 ou en tête de raquette et qu'il essaye de poser un dribble ou deux quand il a son big parce qu'il a progressé dans ce jeu-là.
Oui.
En gros, je me demande parfois si son usage rate, qu'il y a des blessés en plus, tu vois.
Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est...
Bah, je pense
que
c'est un peu les deux.
Et ça, on peut entendre un peu les deux. Et dans beaucoup de joueurs dont on va parler,
ça
Alex...
Ça tâtonne à Cleveland. Pas... Ça tâtonne en ce début de saison à Cleveland.
Pour la plupart des joueurs qu'on va mentionner, c'est pas forcément une histoire de que le joueur, parfois c'est le coach, parfois c'est lui, etc. On va en parler, parce que ça c'est normal, avec la plupart des joueurs, c'est comment est-ce qu'ils sont utilisés, comment ils se situent, mais il y a eu des situations claires. Moi j'en ai parlé avec des fans des Cavs, où tu as Jarrett Allen qui est absent, et on voit ces joueurs qui montent en progression, on voit, je vais en parler de Jalen Johnson à Atlanta, qui voit des absences et qui se dit, tiens je vais monter au créneau parce que j'ai des plus grosses responsabilités. Evan Mobley aujourd'hui, là sur les 20 premiers matchs de la saison, encore une fois je le répète, la saison est longue et je pense qu'il va se rattraper, mais dans le scoring pur, dans ces attentes qu'on peut avoir par rapport aux changes qui sont avec les Cavs, où est-ce qu'il se situe parmi les forwards dans la conférence Est? Putain, il y a des mecs qui sont en train de lui passer et de faire genre coucou, coucou.
Offensivement, c'est sûr.
Offensivement, c'est violent. Et je ne parle que offensivement. C'est pas Evan Mobley est à côté de la plaque. C'est, je trouve, que il a du mal avec les attentes qu'il y a autour de lui en attaque. Et ça, je suis déçu parce que je trouve que c'est un phénomène, Evan Mobley. On a parlé en début de saison en se disant, est-ce que Giannis Antetokounmpo, derrière lui, le meilleur forward, c'est Evan Mobley? On a parlé de ça, hein, Alex, en septembre-octobre. Ben, je peux dire qu'aujourd'hui, la réponse... Offensivement. Je trouve que à Cleveland, Donovan Mitchell fait un début de saison stratosphérique. Il est exceptionnel tous les soirs. Leadership, scoring, playmaking, il est présent, il joue sur un genou. Donovan Mitchell, il n'y a rien à redire. J'eus espéré que Evan Mobley serait un solide 2 qui assure en cas d'absence autour. Et il y a des problèmes avec Darius Garland, il y a des problèmes avec Jarrett Allen, il y a des absences, et je trouve qu'il y a des soirs où Evan Mobley se fait mais casser la gueule. Beaucoup. Beaucoup trop casser la gueule. Et je ne pensais pas que
sans
ce côté soft resterait encore là.
Je suis d'accord.
On est peut-être en train de se projeter dans une nouvelle saison où Evan Mobley, certains soirs, tu te dis « Ah, oh, extraordinaire joueur !» Et parfois, tu es là genre... Pff, il a joué combien de minutes cette nuit?
Non,
il a joué 36 minutes. J'ai l'impression de le rappeler.
Je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Il y a un côté déceptif sur Evan Mobley à ce niveau-là.
J'attends mieux. J'attends plus. Evan Mobley n'est pas All-Star pour moi cette saison.
Bon.
Ah bah ouais, mais il était quoi?
Pas pour l'instant.
Ouais, tout à fait.
Mais après, il y a le nouveau système. Attention. On verra. On en reparlera le moment venu. On en reparlera fin décembre, début janvier, par là, quand ça sera le moment.
Il y a un paquet de forwards à l'Est qui lui passe devant là. Paquet. Scottie Barnes fait un meilleur début de saison que Evan Mobley. Jalen Johnson fait un meilleur début de saison que Evan Mobley.
Jalen Duren Verise là en début de saison.
Jalen Duren fait un meilleur début de saison que Evan Mobley. Oui. On peut faire une liste d'intérieurs et de forwards qui sont en train de passer devant Evan Mobley et qui disent bon, il est gentil, mais la progression, on stagne, offensivement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Ça m'inquiète.
C'est vrai.
Joueur suivant.
Toumani Camara.
J'ai pas parlé des lancers francs avec Evan Mobley. Je crois qu'il doit être à...
Ah, l'enfoiré, il met même pas
60%.
60%, je pense.
Toumani Camara.
Toumani Camara, bah, moi, déception, clairement. Désolé, alors, gros kiff l'année dernière. J'étais là, j'ai putain, le mec, ils sont où ces cartes rookie au Suns et tout? J'étais vraiment en train de. Parce qu'il est rookie.
Oh là, il y a des cartes rookie au Suns.
Ouais, c'est ça, exactement. Pourquoi on l'a filé aux Blazers? Là, cette année, déjà, je fais bon. On l'a filé aux Blazers parce qu'on voulait faire jouer Ryan Dunn et Royce O'Neal.
On s'y retrouve.
Non, plus concrètement, ouais, je suis déçu dans le sens où, voilà, encore joueur jeune, c'est sa troisième saison NBA, je pense, mais où est passé le joueur All Defensive Team de l'année dernière, le mec qu'on dit, ouah, candidat DPOY et tout. Alors voilà, sur ce début de saison. Et je viendrai après sur la partie offensive où, bon, on se faisait peut-être moins d'illusions, mais c'est vrai que le handle a pas trop progressé. Ça a baissé fortement parce qu'il prend plus de tirs, un plus gros volume à 3 points parce que l'équipe a essayé de les structurer comme ça. Puis du coup, le pourcentage a baissé, mais bon, c'est peut-être pas que de sa faute de perdre un peu plus de ballons aussi. Enfin bon, bref, il y a vraiment des trucs qui me gavent offensivement, mais ce qui me gave le plus, c'est le côté défensif dans le sens où il y a pas mal de matchs où... Je l'ai vu moins costaud, moins dans le hustle que l'année dernière. J'ai un peu cette sensation de... je sais pas comment dire. Parfois, là, devant les matchs des Blazers sur ce début de saison, je me suis dit, ah, je l'ai vu trop beau, Evan Mobley. Plusieurs fois, je me suis fait cette question.
Toumani Camara.
Toumani Camara. Bah, Evan Mobley aussi, tiens. Mais, ah ouais, je l'ai vu trop beau, Toumani Camara. Mince. Ah ouais, mince, je l'ai vu trop beau. Là, il y a trop de trucs. Bon, alors, évidemment, le timing de cette vidéo peut paraître un peu spécial pour certains parce que, et je suis d'accord pour le dire, il sort d'un très bon match. Bon, ils ont perdu, mais c'était contre le Thunder et il a été bon. Toumani Camara, il a bien, il était premier rideau sur la plupart des possessions. Faudrait tout vérifier, mais clairement, sur la plupart des possessions, il a été premier rideau sur Shai Gilgeous-Alexander. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de jobs plus chauds à faire en ce moment dans la Ligue.
Surtout qu'il y a eu des calls très fun qui ont été suivis entre lui et Denis Avdija. C'était un match fun.
C'était un match fun et tout. Avdija a eu beaucoup de lancers contestés. Il y a eu des calls où les fans des Blazers n'étaient pas contents des lancers qui ont été filés. À Shai, toujours est-il, il a bien fait chier avec sa longueur de bras, sa mobilité. Il s'est pas trop jeté dans les step back et tout. Bien et tout. Donc c'est un peu un contre-exemple par rapport à ce que je veux dire. Mais quand j'ai bouffé pas mal de matchs des Blazers, c'est une équipe qui m'a bien excité en tout début de saison. J'avoue que ça s'est calmé, mais ils ont eu des blessures, ils ont eu, bon, voilà.
Ils ont un coach qui se barre au bout de quelques jours parce qu'il a une paire de d'as alors qu'il faudrait juste distribuer les cafés.
Ouais.
Pour le show de Sibylops. Quand tu parlais de coach avec Evan Mobley, par exemple, Toumani Camara, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'on lui demande d'être dans un rôle qui n'est pas forcément le sien sur le début de saison. C'est-à-dire que là, il y a eu des matchs où moi, ça allait parce que à partir du moment où t'as Denis Avdija, Sheldon Sharp qui peuvent assurer la production et que Klingan qui nous a fait des bons trucs, ou Jrue Holiday est présent, tu peux compter sur eux, mais ils ont eu un changement de coach, ils ont eu des blessés, et du coup, on lui demande davantage, et le costard est très très grand. Là.
Le costard est beaucoup trop grand, et autant je répète, hein, offensivement, il a vraiment des pourcentages vraiment pas beaux en début de saison, des pourcentages de réussite au tir, mais ça, je suis tout à fait prêt à entendre, peut-être les volumes sont à retravailler, peut-être les situations dans lesquelles on le met à cause des absences, ok, j'entends. Mais moi, même défensivement, il me laisse sur ma faim. Et je dis, c'est un contre-exemple au dernier match là contre Thunder. Sur le début de saison, l'impact défensif de Toumani Camara n'est pas du tout à la hauteur de la saison dernière, à mon sens.
Qui a prolongé cet été.
Ça a prolongé cet été, tarif tout à fait normal, tout ça, pas de problème là-dessus, mais juste, ouais, déception... Déception, c'est-à-dire que là, tout de suite, tu me demandes de faire deux All Defensive Team, il y a pas Toumani Camara dedans. Non.
J'entends.
Non.
Et j'entends, no. Et c'est normal. Non, mais moi j'entends. Hein, c'est.
Alors que l'année dernière, il y était genre tout le temps, quoi, tous les jours.
Et que, en dépit du jeu offensif absolument atroce qui parfois peut être proposé par nos amis de Portland, ils essayent.
Caractérise les Blazers de ces dernières années, parce que dis donc.
C'est chaud. Mais tu pouvais quand même, la dernière sur le run de fin de saison, tu pouvais compter sur une défense collective, notamment symbolisée par l'émergence de Toumani. Hein. Portland fait partie des 8 pires défenses de toute la NBA. Hein.
Oui.
C'est collectif, mais...
Et Avdija a augmenté ses responsabilités offensives et tout machin, ok. Camara, s'il shoot comme ça, il ne peut pas se permettre. Il faut qu'il défende beaucoup plus dur, beaucoup plus fort. Il faut qu'il impacte beaucoup plus.
Tout à fait. Déçu. Non, Toumani, on va lui donner du temps, comme à tous les autres.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on a démarré la saison en disant « Ouais, prolongé. Si ça se trouve, Lou Dort 2.0, nickel, tous les soirs, tu vas t'attendre à de la grosse défense et un mec qui va être un winning player. »
Allez. Moi, j'étais là, genre la rotation front court, bien sûr que Jérémy Grant est sur le banc. Là, sur le début de saison, si demain, Thiago Splitter dit « Ah, franchement, moi, offensivement, j'ai besoin d'avoir Jérémy Grant et Avdija ensemble. Désolé, Toumani, mais tu vas commencer à sortir du banc. » Qui pourra dire quelque chose? Personne.
Le juge, je ne sais pas, dira certainement quelque chose.
Vas-y, t'en as un petit deuxième? Parce que moi, j'en ai fait deux, là. Qu'est-ce qu'on a?
On vous révèle les coulisses de Trash Talk. On avait fait un apéro sur la Melo Ball qu'on n'a pas pu sortir. Je préfère être parfaitement franc.
C'est vrai.
On a fait un apéro.
La vidéo est en non-rep sur la chaîne, on n'a pas pu sortir.
Zaléos qui dit, mais qu'est-ce que ça fout là ?
Entre-temps, il a démenti les rumeurs.
Parce qu'on n'a pas voulu, on a une déontologie au niveau de Trash Talk, et je préfère être très clair, on a fait un apéro, et au moment où on allait sortir, le mec a sorti une côte qui a
pas une côte, il a envoyé le tweet avec le clown.
Il a fait emoji clown par rapport au report qui a été fait sur son transfert.
C'était il y a une dizaine de jours, le report sur son transfert qui sort avec Bastien, on était pile poil en train de tourner de l'actu, on dit bah oui, la Melo Ball, nickel, en plus il y a des trucs à dire. Et le mec dément. Donc, du coup, la base de notre apéro.
Alex, tu fais gars, il y a la côte de la Mélo Ball, on peut pas sortir 25 minutes de démolition, non. Alors que le mec, il a rendu.
De démolition et surtout de genre de travail, genre projeté dans les trades et tout.
Ce qui m'a juste
du coup,
donné. Bastien
m'a dit, t'inquiète, je mettrai dans les déceptions.
Exactement. Donne-moi 10 jours et j'en fais mon plat principal.
Voilà, vache. Voilà, franchement, on a dans les déceptions, c'est chaud, hein, je suis d'accord.
C'est la totale, parce que là, tu venais d'en parler avec Zion, par exemple, du côté de New Orleans. C'est bon. On va suivre Con Knuppel avec grand plaisir dans le projet.
Et on prie pour que Brandon Miller se revienne bien à 100% et tout.
Et connaissez-vous l'extraordinaire Ryan Kalkbrenner avec Moussa Diabaté en backup? Et qui l'aurait cru qu'on se serait basé sur Sion James et Colin Sexton pour se régaler à Charlotte? Alors, on va se calmer, les Hornets sont pas bons sur ce début de saison, pas de problème. Mais Lamelo, pardon, ok, il y a eu des blessures là, donc il est pas là, mais c'est la totalité. Je peux prendre le match à Washington, qui est son match là, qui est le truc référence. Je vais sortir sur Running Gag toute la saison. Le mec, il est à Washington. Il fait un triple-double de zinzin, un Lamelo game. Il est partout. Il distribue, il rebond, il score.
Non, mais le talent, de toute façon, le talent est indéniable.
Tout à fait. Le mec fait le taf et intervieweuse de fin de match qui vient voir Lamelo. 38 points, 15 rebonds, 13 passes. C'était quoi votre statistique la plus préférée dans, dans ce triple-double? Il répond la victoire. Je me dis putain! Ça, c'est la Mélo Ball! Voilà! Le talent, il est là!
Le mec fait de la politique.
Et le gars, il est là! Il est là, on y est, on va passer le cap! On va passer le cap, les Mélo Ball! 5 jours plus tard, on a ce report là qui sort et qui, ok, en effet, est peut-être démenti par la Mélo Ball sur Kelly Ico de Yahoo Sport, qui nous dit quand même qu'il serait potentiellement ouvert à une demande de transfert. Mais juste, du coup, l'image globale et la production globale de la Mélo et tout ce qui est de global autour de la Mélo Ball, moi, je suis hyper déçu. C'est-à-dire que on s'était dit, c'est quoi la question de la mort sur la preview des Hornets? C'est peut-on construire autour de la Mélo Ball?
Est-ce que c'est un vrai franchise player ou un truc dans ce genre-là? Ouais. Ouais,
et donc, on retrouve les mêmes rengaines sur est-ce que c'est un winning player? Est-ce que les pourcentages, il faut vivre avec? Bah, tous les pourcentages sont à la baisse. Si on pouvait avoir des impacts de défensif, certains soirs ça essaye, mais d'autres non. Et donc, on peut que isoler le match à Washington ou quelques séquences, mais sinon, c'est pas top. Je ne sais pas comment ça se passe avec Charles Lee parce que, pauvre entraîneur, il essaie de faire avec des minutes restrictions, avec le retour de Brandon Miller et la Melo Ball. Donc, il y a même eu des matchs que les Hornets terminent bien pendant que la Melo est sur le banc, mm-hmm. parce que ce sont des restrictions de minutes.
Oui.
Et donc,
oui.
du coup, les Hornets doivent faire ce travail-là sans Melo Ball. Et donc, du coup, bah, le fameux génie, il famoso génie sophomore All-Star qui régale et tout, bah ouais, c'est la déception. Parce qu'il fait partie de ce groupe, là, cette caste-là. On en a fait, c'est une taverne, hein. Zion, Jamorant, la Melo, là, tous les copains du cirque. On les retrouve à chaque début de saison, être en preview, on dit c'est lequel qui va être tir de jambe et qui va nous séduire. Alex a fait Zion, je fais la Melo. Vous pouvez faire Jamorant si vous voulez. Mais la Melo Ball, là, aujourd'hui, si vous voulez faire des punchlines sur lui, c'est open bar. Parce que c'est. C'est combien? Attends, excuse-moi, je les avais sous les yeux là, juste.
Tu cherches quoi?
Je me remets. 38% au tir, 28% à 3 points, 19 points de moyenne. Bon, en gros, on n'a pas fait pire depuis sa saison sophomore. Et puis, du coup, Charlotte n'a pas besoin de ce type de faux divertissement et de problèmes extrasportifs avec des rumeurs autour de lui. Que tu envoies un tweet en disant clown, d'accord, j'aimerais. Que là, il y ait les trucs les plus simples qui existent au basket, et on a déjà vu ça avec plein de stars, c'est tu veux fermer des bouches, tu es présent sur
parquet.
Le terrain.
Parquet.
Tu es présent sur le parquet, et pas présent en... Tu défends, t'essaies de montrer l'exemple, t'encourages les jeunes, tu dis en devant les micros que c'est vachement bien les rookies ce qui se passe, etc. Et je dis pas qu'il ne le fait pas, je dis qu'il ne le fait pas assez.
Et puis surtout, genre, tu shootes mal. Ok, ça peut arriver à tout de suite. Va chercher des lancers.
Va chercher des lancers.
Utilise ton physique, il est grand, il est assez rapide, il a un bon handle.
On a dit qu'il est compétitif suffisamment pour nous avoir montré que défensivement, la Melo peut être là. On l'a déjà vu loquer certains meneurs et tout.
Donc, je suis d'accord, grosse déception. Ça, on est
grosse déception. Du coup, c'est quoi là par rapport à la question de la mort? C'est peut-on se baser sur la Melo Ball? Excusez-moi, ça fait 20 matchs et il y a Con Knuppel là qui est en train de nous dire juste, genre, le projet, les frères. Si ça marche avec Brandon Miller, vous avez nos deux ailiers. Hein. Genre là, le
trouvez-nous un meneur gestionnaire propre voilà. Et ça ira très bien. Quoi.
Et on va voir vers où on va. Mais en tout cas, votre meneur contre un axe tatoué qui envoie des dingueries avec Miles Bridges, non merci, et potentiellement parfois Brandon Miller, c'est bon. Je suis déçu.
Je suis d'accord.
Je suis déçu parce que peut-être que à tort, je me fais des attentes sur Amelo, mais merde, à chaque début de saison, on fait le même truc, Alex. On se dit Amelo, on va y aller.
C'est parce que le talent est indéniable et que le mec a pas encore 25 ans. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a quand même, c'est quand même quelque chose, quoi, normalement, sur le papier.
Oui, mais je pensais que même quand t'as des petits coups de, tu vois, quand l'année dernière on défonce Theresa Liberton à mi-novembre, bien nous en a pris. On a parlé de parquet, mais on n'a jamais parlé d'attitude. On a dit c'est quand même un mec qui rassemble ses coéquipiers, etc. Mmh. Ça va, Tyrese Haliburton, c'est un mec, tu peux le suivre, c'est le leader de la franchise, tu y vas. Je n'ai pas l'impression qu'avec ce qui se passe là sur les derniers reports et tout, que ce soit Kumbaya dans le vestiaire des Hornets et que tout le monde se dise non, mais tranquille.
Et puis dans l'adversité, merde. C'est-à-dire qu'il y a là, il y a, que tu as fait bien de citer Tyrese Haliburton, qui est un poil plus vieux que LaMelo, mais à peine. T'as aussi Tyrese Maxey qui doit supporter des blessures, des trucs, des machins. Tu as Jaylen Brown. Regarde comment Jaylen Brown se comporte là dans l'adversité, dans la difficulté et tout. Et t'en as d'autres, des types comme ça. Et LaMelo, lui, on lui fout un rookie incroyable. Il a Brandon Miller qui revient de blessure. Il a Kalkbrenner, c'est pas si mal en duo avec Moussa Diabaté. Enfin, je veux dire. Il y a quoi ? Il y a de quoi jouer, là, Charlotte, là ? Il y a de quoi jouer, je sais pas, bon, le play-in, hein, attention, hein, je dis pas que les types vont devenir contenders, mais il y a de quoi, je suis d'accord, non, mais de toute façon, déception claire et nette. Claire.
On est en régression, là, quasi, avec LaMelo, là, c'est du coup...
Le niveau de hype n'est pas du tout en rapport avec ce qui se passe sur le terrain, quoi, c'est pas normal.
Qui te dé... Ouais, non, j'allais te laisser faire un gars, mais je vous pose la question, ceux qui regardent la vidéo ou l'écoutent, Ja Morant ou LaMelo Ball, qui déçoit le plus ? Bah, tu vois...
Bah, Ja, il est blessé. Bon, je dis pas qu'il ne soit pas sur certains points, mais je sais pas. Faudrait que Ja joue un peu plus pour comparer, quoi. Mais oui.
À toi.
J'en ai un petit troisième. Alors, c'est plus. Franchement, c'est plus de la tristesse que réellement de la déception. C'est de la déception en tant que fan de basket. C'est pas vraiment de la déception vis-à-vis du joueur en lui-même. Je parlais de Joel Embiid. Non, mais c'est vrai, je préfère le dire franchement. J'éprouve.
Lâche-toi, Alex.
J'éprouve de la tristesse quand je vois Joel Embiid jouer au basket là, sur le peu de majeur qu'il a joué.
Moi, courir, justement.
Waouh, c'est chaud. Non, mais je parle bien de jouer au basket parce qu'il a toujours son petit mid-range, il arrive à peu près à scorer des points quand même. Tu vois, il peut. Reste un QI basket quand même au-dessus de la moyenne, avec un gros corps, il sait l'utiliser au poste et tout, mais.
T'es déçu ?
Je suis déçu. Déçu, je le répète, en tant que fan de basket, je suis déçu dans le sens où, ouais, peut-être secrètement, au fond de moi, j'espérais, alors c'est peut-être pas fini, hein, peut-être qu'il est encore en train de monter en puissance après son retour de blessure, et plus ça va, plus j'ai du mal à y croire, plus ça va, plus j'ai l'impression que, malheureusement, bien évidemment, on retrouvera jamais le Joel Embiid MVP, ça je, d'accord, j'ai capté, mais genre, est-ce qu'on retrouvera un Joel Embiid, ne serait-ce que genre, capable d'être une vraie option fiable ? Là, il a joué quoi ? Un tiers des matchs des Sixers, un truc comme ça ? Déplacements latéraux, il n'y arrive plus. Sauter a l'air difficile pour lui. Défensivement, du coup, bah forcément, il a perdu de son impact. Mais même offensivement, en fait, au rebond, c'est plus du tout la même chose et tout. Genre, quand tu regardes les stats avancées sur 100 possessions, là, voilà, je vais me les remettre. C'est ça, les sur 100 possessions, les stats avancées sur 100 possessions de nos amis les Sixers. L'impact statistique d'André Drummond est meilleur des deux côtés du terrain que celui de Drummond. Embiid. L'impact statistique des deux côtés du terrain de André Drummond est meilleur que celui de Joel Embiid. Ensuite, bah André Drummond, lui, pour le coup, bah il a joué presque tous les matchs des Sixers depuis le début de saison. C'est l'intérieur qui a le plus de minutes, hein, a priori. Après, t'as Trendon Watford, Dominic Barlow.
Bona,
je pense qu'il est quand même derrière en minutes. Oui, mais il est devant Embiid en nombre de minutes jouées depuis le début de saison. Non, c'est très, très chaud. C'est plus inquiétant ou triste que vraiment décevant.
Oui, c'est ça en fait.
Dans le sens, voilà, c'est pour ça que je prends vraiment les mots. En tant que fan de basket, je suis déçu parce que vraiment, moi, ça a été un choc pour moi les matchs de début de saison avec Embiid. J'étais là, genre, what ? Putain, il a du mal à bouger.
Ensuite, il y a moins de drama que là.
Il a été absent une grande partie. Ah oui, clairement. Il a été absent une grande partie du mois de novembre. Et là, il est revenu, bon, juste à un match ou deux, là, au moment où on fait cette vidéo, mais c'est toujours aussi inquiétant.
Oui.
De le voir évoluer, de le voir bouger, de voir son body language. Genre, en comme ça, c'est devenu l'équipe de Tyrese Maxey. On sait pas trop ce que Paul George pourra apporter, mais on a une petite idée, là, on l'essaye post 4 et tout. Et par contre, genre, ça n'arrivera pas parce que le contrat de Joel Embiid est, en l'état, absolument intransférable. C'est une catastrophe. Financièrement et en termes de flex pour les Sixers et tout. Mais vraiment, genre, j'ai vraiment sale goût, quoi. J'ai l'impression de revivre des trucs vraiment pas beaux dans l'histoire de la NBA. Des mecs qui arrivent plus à revenir. Des Penny Hardaway. Tu vois, des mecs comme ça, là, qui arrivent plus, quoi. Qui essayent, hein. Le talent, et tu l'enlèves pas, le talent. Les mains, elles sont toujours là, le toucher. Mais en fait, si t'as pas
c'est
les jambes.
Déception, tristesse.
Pour les jumpers, c'est chaud. Oui. La vie, latéralement et verticalement. Oh! Oh la vache.
Ouais, je l'ai vu se faire cueillir par certains
c'est
gars.
Kendrick genre, Perkins le bouffe, là. Tu vois, c'est chaud.
En fait, non, il bouge comme Patrick Ewing, mais aujourd'hui.
Oui.
Patrick Ewing, non, vraiment, 76 ans. Ah,
ouais, je suis déçu, je suis vraiment, vous avez compris, c'est plus de la tristesse.
Oui, c'est pas déçu, comme là, on l'a fait sur certains gars.
J'ai pas envie de tabasser Joel Embiid, c'est non. Pas vraiment le sujet. C'est plus de quand même de dire que là... Wow,
ah, c'est décevant.
Ça fait un mois et demi que la saison a commencé, il a joué même pas 10 matchs.
Regardez des vidéos d'il y a Embiid il y a 2 ans, t'as l'impression que le mec il y a un wagon qui lui est tombé dessus quoi.
C'est chaud.
C'est très très chaud physiquement. Pour autant, moi je trouve, c'est marrant que tu dis ça, je suis assez épaté, à la différence de certains gars dont on a parlé là, que compte tenu de sa chute physique, de son importance moindre dans le système et tout, qu'il n'y ait pas de drama et c'est tout à son honneur. C'est-à-dire que.
Mais c'est vraiment d'autant plus triste. Ça veut dire qu'il a complètement assimilé, accepté, et que qu'il sait qu'au fond de lui qu'il ne redeviendra plus ce qu'il a été.
En tout cas, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je trouve qu'au début de saison, les Sixers au global ont dit avec Nick Nurse, avec Embiid, on va communiquer sur il va avoir de l'incertitude, etc. Et autant la dernière, au bout de 2 semaines, tu sais, il faisait du front contre front avec des journalistes et tout. Autant là, je trouve qu'il y a une forme de grâce dans le fait d'accepter que c'est plutôt pour Tyrese, pour Edgecombe et pour compagnie les rennes. Mais quelle tristesse, en fait, c'est ça. C'est plus tristesse.
Oh, ouais. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Voilà, voilà, voilà. T'en as un petit dernier pour la route ?
Mon dernier, c'est un ancien joueur.
Un ancien joueur ?
Ouais.
Vas-y.
Parce que j'aurais jamais pensé, que son équipe se situerait là, aux quelques matchs. On en a fait un apéro récemment, et surtout, vu le quotidien qu'il se tape, même les déclats et tout, mais... Tyronn Lue, frère. En fait, je me penchais sur les Clippers et je me disais, qui me déçoit le plus ? Parce que, Kawhi, il y a quand même des fulgurances, là, fin de match à Miami où il essaie de se donner...
Mais c'est ça, le pire, c'est que Kawhi envoie des saletés, il perd quand même.
Il essaie un petit peu, évite ça, le pauvre, je me dis, bon... Est-ce que je suis déçu par Brook Lopez et Chris Paul ? Bon, oui, et puis en même temps, j'ai essayé de jouer au basket depuis la guerre de sécession, donc on va essayer de prendre des mecs de moins de 75 ans. Est-ce que je suis déçu par Harden ? Impossible. Est-ce qu'il y a des blessures ? Est-ce que je suis déçu par John Collins ? Ouais, en même temps, est-ce qu'on attendait grand-chose, Bradley Beal ? Non, moi, ce qui me choque, c'est que Tyronn Lue et les Clippers, normalement, il y avait une condition sine qua non, c'est que cette équipe, elle se défonçait défensivement, et elle essayait de se donner pour qu'ensuite, offensivement, elle fasse avec ses incertitudes. Absence ou présence de Kawhi, Harden plus ou moins en forme, et évite ça par rapport au match-up. Ah, franchement, le groupe, il a quitté. Hein.
Tu penses qu'il a perdu le groupe, ouais, Tyronn Lue ?
En fait, je ne sais pas s'il va... J'ai eu des reports, là, à droite à gauche, de Steve Ballmer, il est arrivé, il a dit, bon, Lawrence Frank, Tyronn Lue, démerdez-vous avec ce qu'on a. Donc, je ne sais pas si son siège, il est bouillantissime. Moi, ce qui me choque, c'est que quand tu commences à avoir 1, 2, 3 défaites de suite, là, ils sont allés à Miami, là. On n'est même pas étonné qu'ils se prennent plus 30 dans la gueule.
Non, on n'est pas étonné. C'est ça qui est terrible. Ça, je suis d'accord.
Tyronn Lue, enfin, je comprends. Hein. Il y a eu souvent des images autour de Tyronn. C'était Tyronn Lue autour des Cavs. C'était l'équipe de LeBron et tout, mais... Un truc que Nico Batum nous a dit et que les joueurs aussi ont dit autour de Tyronn Lue et des Clippers, c'est que ça se tape. Ça se tape. L'année dernière, les Clippers, ils se tapent. Ils y vont au mastic. C'est une des meilleures défenses de la NBA. Et après, on essaie de voir ce que ça peut donner. Tyronn Lue, c'est... On a perdu Kawhi en playoff. Vas-y, on va avec Paul George en finale de conf. On y va. Il y avait un truc il y avait un truc d'abnégation et de détermination dans ce groupe qui faisait que tous les soirs, il y avait une surprise. Il y avait un gars qui sortait du lot. Il y avait un Amir Kofi. Il y avait un gars comme ça qui essayait... En fait, j'ai l'impression qu'il est entre abattu, un peu défaitiste et je sais pas si c'est absolutiste ou tu sais le côté un peu genre c'est comme ça, fataliste. C'est ça le terme ?
Oui.
C'est comme ça. Et je ne pensais pas ça de Taron Lu. Alors parfois il fait un peu du kumbaya devant les micros et il dit la saison est longue, faut qu'on s'accroche et tout, mais je suis très déçu par les Clippers et en fait quand je regarde les joueurs, il y en a évidemment qui ne sont pas là et qui ne font pas leur taf, ou en tout cas qui sont moins productifs que ce qu'ils devraient être. Mais je ne pensais pas qu'une des équipes les plus fortes défensives et soudées serait aussi désarticulée et se prenne des pilules dans la gueule. J'en viens à me dire, heureusement que notre ami Barbu nous a envoyé quelques très très grosses mixtapes à droite à gauche.
Derrière les pays qu'on les dit, déjà.
Déjà, tu sais, ils sont derrière les Mavs ?
Ouais.
Putain. Pardon.
Les Mavs, attention. Mavs, ça va, tu vas voir, ça va revenir, les Mavs.
Oui, 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 voilà.
Parce que les Mavs, ouais. Ça joue.
Ouais, ça essaye un petit peu. Ça a été atroce au début. Clay Thompson aurait pu être dans la liste il y a deux semaines. Enfin, voilà, il y avait deux, trois choses. Mais, fan des Clippers, vous me dites, mais moi, j'ai vraiment, Taron Lu, j'ai vu des... En fait, c'est quand j'ai commencé à avoir des conférences de presse et que c'était un peu genre, t'as l'impression que limite il était dans les creux, il disait ouais, on verra demain, back to back, il faudra essayer de donner un meilleur effort, mais on va. Et je trouve que d'habitude, Taron Lu, il arrivait à avoir un peu le. Tu sais, il avait un peu la poigne de dire genre, il trouvait la bonne. Tu sais, c'était un coach qui est suffisamment fin pour avoir la bonne déclat
donc,
en sortie de match.
Donc, je pense qu'il a perdu son groupe potentiellement, quoi.
Je sais pas si c'est perte de groupe ou juste, ce que je peux comprendre aussi, flemme de je sais pas si je peux compter sur Kawhi, pas compter sur Kawhi, et maintenant. Je laisse la boîte automatique. Je laisse le pilotage
démerdez-vous,
automatique,
quoi.
Démerdez-vous. Voilà.
Je pourrais comprendre ça. Hein.
Ouais, tu vois, peut-être que du coup, mais je trouve ça décevant qu'un mec qui a jonglé avec tellement de choses, on a vu Taron Lu dire OK, ça va être un problème, je vais mettre Nico Batum en poste de pivot, je vais trouver la solution. Il était motivé, il était déter, tu vois. Ça, je trouve ça dommage. Le contre-exemple parfait que j'ai par rapport à ça, c'est que Rick Carlisle, il en chie à Indiana, là, je pense qu'on peut le dire sur le début de saison. Mais Carlisle, il est sharp. Il est sharp pendant les matchs, il est sharp en conférence, il essaye de dire les jeunes, il faut qu'on les fasse progresser. Et les gars, il faut qu'on essaie de se battre. Et on y va,
différent.
Et on a plein de blessures. Non, mais les contextes sont différents.
Ce que tu veux dire.
Mais Carlisle, il est là. Mais le bilan est dégueulasse, Indiana.
Oui, le bilan est dégueulasse, mais ça sort de finale, le
ça
meilleur joueur
finale.
Est blessé. Il y a tout un contexte qui
mais
permet
pourrait,
de motiver
peut...
les types.
Tout à fait, mais Carlisle, il pourrait en soi.
Ah, il pourrait dire, allez-y, mec, on verra l'année prochaine.
Il pourrait dire, bon, moi je suis parti des 15 meilleurs que je joue tant, parce qu'il ne fait pas partie des 10, je crois, je ne sais plus.
Il ne fait pas partie des 15, hein, je crois.
Oui, non.
Bref, ça c'est un autre sujet, on ne va pas revenir
voilà.
Là-dessus.
Mais Carlisle pourrait dire, bon, cette année je la mets un peu, voilà, je suis un peu moins dedans et tout. Non, 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 ça essaye. Il y a vraiment des moments où il remonte les bretelles. Il y a des gars qui ont pris mais des très très grosses roustes de la part de Carlisle, notamment sur le début de saison, parce que certains ne mettaient pas l'effort et où ils disaient « je m'en tape si on a 3 victoires ou 17, tenir en NBA, c'est faire l'effort ». Et donc je me disais « ah, je retrouve mon Ricky, je retrouve Rick Carlisle qui fait son taf ». Taron Lu, j'ai l'impression que il est devant Arte tous les soirs, quoi. On est à combien ? On est à plus 2 ? Ouais. On est à moins 8 ? Bon... Il y a qui déjà le pic, le Thunder ? Ok.
Non, mais c'est sûr, c'est compliqué. C'est très, très compliqué.
Voilà. Alors, évidemment, il y en a d'autres, hein, des joueurs qui ont déçu, ou d'autres choses hein, qui ont déçu. Hein. On peut parler évidemment de Jamorant, hein, qui était dedans. On a réfléchi tous les deux aux Kings. C'est quoi qui est le plus décevant aux Kings ? C'est de Mantas, c'est Zach Lavine ? C'est le fait que nous, on a eu des attentes autour des Kings ?
Le coaching de Doug Christie ?
Ouais.
Avec moyen d'en parler. Hein.
Ouais. Mm-hmm. Est-ce qu'on est déçu par Doug Christie ?
Bah, je sais pas, mais en tout
moi, je trouve que dans l'attitude là, les demandes à ces acclamines là, c'est très chaud.
Ouais. Ils sont pas aidés. C'est pas pour les défendre forcément, mais ils sont pas aidés quand même. Ils sont dans un contexte tout pourrave, quoi, où il y a aucune perspective, où on comprend bien que tout le monde est transférable là-dedans. Enfin, on souffle fort quand même à Sacramento là. Il serait mieux de tout transférer d'ailleurs.
Je regarde s'il y avait un petit peu d'autres, là, juste pour finir. Hein. T'avais d'autres gars en mention, potentiellement, ou pas ? Je regarde un petit peu dans le grand cosmos.
Est-ce qu'on est déçu de Miles Turner ? Non, mais c'est une question.
Ça a été bien au tout début de saison, c'est un peu irrégulier. Il y a des soirs où vraiment tu te dis, ah, on a vrai qu'il a joué depuis 10 ans avec Yanis, et puis parfois tu te dis, bon...
Hein ?
Oui.
Quand même.
En tout cas, pour une acquisition forte,
Je suis pas sûr d'être très content, on va dire.
Oui. Non, oui, il y a quelques gars.
Non, mais c'est bien. Les gens, ils vont nous dire en commentaire.
Dites-nous.
De qui ils sont déçus le plus.
Quel est le joueur le plus décevant de son début de saison. Dites-nous ce que vous en pensez, ou même de votre propre franchise de cœur, parce qu'on a plein de choses à devoir discuter. On fera un point sur ces joueurs par la suite dans la saison. On vous fait des gros bisous et on se retrouve très très vite. Dans d'autres apéros, des bisous.
Ciao.
Ciao
tout le monde.